Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve et ce soir, on commence en 1900, let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là, l'œil du tigre mec, ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
1900, quelle belle et bonne époque, et la vie était si agréable, si facile, et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur, et on s'amusait d'un rien.
C'était la voix de Cléo de Mérode, danseuse, courtisane et icône de la belle époque, morte en 1966 à l'âge de 91 ans. Cléo de Mérode, personnage fascinant, n'a sans doute jamais eu conscience qu'à l'aube du XXe siècle, où l'on s'amusait d'un rien donc, naissait également un nouvel acteur social, le supporter. Elle s'en doutait d'autant moins qu'on a longtemps pensé que les supporters sportifs en France étaient apparus dans l'entre-deux-guerres, or c'est faux. Et c'est comme qui dirait un scoop à retardement, un récit historique inédit et passionnant. Sachez que cette révélation du temps passé a été dévoilée il y a quelques mois par une escouade d'historiens emmenée par nos deux invités du soir. Tout d'abord le maître d'œuvre, celui qui a coordonné les recherches et dirigé ce livre, historien du sport et de sa médiatisation, Philippe Tétard, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. À vos côtés, elle est historienne, elle aussi spécialiste des mouvements ouvriers, elle a contribué à écrire ce récit pionnier du supporterisme à la française. Marion Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, nous sommes côté tribune avec l'histoire des supporters en France de la belle époque aux années 30.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine, on débute avec une définition succincte, mais très juste, de ce qu'était un supporter, donc. Aux yeux d'Antoine Blondin, romancier amoureux du sport, écrivain passionné par la dramaturgie sportive, autrement dit le muscle et la plume, voici donc une lecture sur France Culture du supporter, selon Antoine Blondin.
Je dirais que le supporter est d'abord un homme qui se contemple dans un champion. Par là, il est normal, quel que soit son clan ou sa confession, qu'il choisisse celui qui lui ressemble le plus. Le champion de Béziers s'il est de Béziers, le champion de France s'il est français. Ce champion devient son émanation. Il souffre de ses défaillances comme si elles le compromettaient personnellement. Il partage ses triomphes comme autant de victoires personnelles. Ils sont reliés par une membrane plus subtile que celle des Siamois. Un sang commun les irrigue. Ce parti pris sportif qu'on prend trop souvent pour l'esprit du coq ou celui du clocher n'est au fond que l'esprit de famille. Antoine Blondin, le 26 octobre 1955.
Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. puis se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul.
Sur le cul, un titre signé Bertrand Belin. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Ce sont deux enfants de la belle époque. Comprenez qu'ils y sont nés. Le premier en 1888 à Paris et le second en 1885 à Saint-Pétersbourg. L'un et l'autre ont été des hommes de spectacle. Maurice Chevalier et Sacha Guitry ont offert toute leur vie sur scène des émotions à un public rassemblé devant eux. Une expérience collective donc, mais ni l'un ni l'autre n'ont vu qu'au tournant du siècle. Un nouveau type de spectacle était en train de naître, le spectacle sportif, avec là aussi un nouveau type de public, désireux à sa manière, d'une expérience collective, le public des supporters qui émergent dans cette France de la belle époque.
1900, imaginez notre Paris au printemps. Les terrasses des grands boulevards regorgeant de jolies femmes et de leurs amoureux cavaliers. Les trottoirs grouillent de midinettes et de parigots marchant allègrement dans la direction des Champs-Élysées où les flonflons de l'âme parisienne sortent les ambassadeurs comme pour électriser la capitale.
Là, nous avons vécu 20 années radieuses. L'entente cordiale et l'alliance franco-russe apportaient à la France un grand apaisement. L'exposition universelle de 1900 semblait en être quasiment la conséquence. Et la France avait l'air de dire au monde entier: venez me regarder lorsque je suis heureuse.
Sacha Guitry, précédé avant lui par Maurice Chevalier, qui évoquait cette France du début du XXe siècle, où est né donc le supporter français. On va y revenir tout au long de cette émission ce soir. Philippe Tétard, vous êtes historien, historien du sport. Vous avez dirigé ce livre passionnant intitulé « Côté tribune, les supporters en France de la belle époque aux années 30 ». On a longtemps pensé, Philippe, que les supporters étaient nés en France dans l'entre-deux-guerres. Or, c'est faux. Ils sont apparus à la belle époque. Comment vous en êtes aperçu, Philippe Tétard ?
Tout à fait par hasard, au gré d'une recherche qui n'avait rien à voir avec le supporterisme, je suis tombé sur un article qui traitait du bon ou du mauvais supporter dans un journal sportif du nord de la France. Voilà.
1913, je crois, l'article.
Et donc j'ai tiré ce fil-là pour m'apercevoir qu'en fait, ce mot-là, s'il n'était pas utilisé très communément à cette époque-là, mais il était déjà présent dans la presse. Et puis, chemin faisant, on s'est engagé avec quelques camarades historiennes et historiens, une escouade.
Une escouade d'historiens et d'historiennes,
voilà,
en effet.
Pour tenter de cartographier la période.
Et de raconter une histoire qui était inédite jusqu'à présent.
Voilà, ouais, une histoire qui... Mais je me tourne vers Marion.
Marion Fontaine.
Voilà.
Bonsoir Marion.
Rebonsoir.
Historienne elle aussi, qui a participé à la rédaction de ce livre.
Parce qu'en vérité, personne ne nous disait clairement de quand ça datait. On savait qu'il y avait un supporterisme propre aux années 50, 60, 70, voilà. On le connaît beaucoup mieux depuis les années 80, 90. Mais en fait, la naissance du supporterisme flottait dans des limbes.
Voilà. Marion, comment ça s'explique? Est-ce que c'est un désintérêt de l'université? Est-ce qu'on se dit, bon, en fait, ça raconte pas grand-chose? Il y a un mépris peut-être pour le supporter français dans l'historiographie? Comment ça s'explique qu'on n'ait pas une histoire du supporter en France avant 2020? C'est très étrange.
Non, ce mépris pour l'histoire du sport, l'histoire du football, il est désormais bien passé depuis 20 ou 30 ans et depuis que quand même l'histoire du sport et du football est bien labourée. Je pense que Philippe Tétard en fait la remarque dans son introduction. C'est aussi que la raison principale en est que pendant longtemps, on a travaillé sur un moment très particulier de l'histoire des supporters, c'est-à-dire ce moment où les supporters deviennent un problème, deviennent l'objet d'une panique morale, c'est-à-dire via la forme du hooliganisme, des ultras, etc. Donc les supporters ont d'abord été saisis par les sociologues, et saisis par les sociologues parce qu'ils posaient une question d'ordre public, interrogée effectivement sur l'explosion d'une violence à partir des années 60-70 en Angleterre, 80-90 en France, qu'on ne comprenait pas. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'histoire du sport, c'est qui est du football qui commençait à naître, s'est penché sur d'autres sujets, la structure des clubs, l'histoire des équipes, l'histoire des joueurs, et que on a pendant un temps pas beaucoup interrogé cette question du supporter, au point que des sociologues comme Ludovic Lesrolin, avec qui j'ai écrit dans le livre un article sur les supporters du Sud-Est, finissaient par se poser eux-mêmes la question et nous demander aussi, nous les supporters, on les voit, des supporters de l'Olympique de Marseille, de Lens, etc., on les voit aujourd'hui, on les voit dans les années 50, mais avant. Donc c'est aussi le fait que l'intérêt s'est en quelque sorte déporté vers les périodes les plus anciennes pour comprendre d'où ce phénomène venait, alors même qu'il n'était pas considéré comme problématique ni comme un danger public.
Alors justement, cette histoire elle vient du nord de la France, Philippe Tétard. D'abord, donc ça c'est un phénomène anglais, puis belge, et puis en fait dans le nord de la France, donc c'est une sorte de porosité frontalière. Donc en 1900-1910, le supporter existe dans le nord de la France. Il ressemble à quoi ce supporter ? Est-ce qu'il y a un supporter type du nord de la France, Philippe Tétard, aux années 1900-1910 ?
Les sources qu'on a utilisées, qui sont pour l'essentiel médiatiques, à quelques rares exceptions...
Donc de la presse écrite.
Voilà. Nous laissent un peu sur notre faim. C'est difficile de peindre le supporter. C'est probablement un passionné de football, ou de rugby, ou de boxe, au besoin. Bon connaisseur de la chose, et qui entreprend de soutenir son équipe ou son favori, en essayant de faire valoir un certain sens moral. Voilà, ce serait la première définition. Quant à le définir d'un point de vue sociologique, est-ce qu'il appartient à telle ou telle catégorie sociale plutôt, les sources nous manquent pour le dire. On sait un peu mieux dans les années 20 et 30 comment serait, alors je mets un conditionnel, comment seraient structurés les clubs de supporters avec des strates sociales qui sont pas forcément les mêmes aux différents étages de la vie associative.
Il y a aussi un aspect régional, c'est ce qui explique un petit peu d'ailleurs Vigarello, Georges Vigarello, qui est dans la préface, qui est préfacier de ce livre, pardon. Il explique aussi cette belle époque, c'est aussi une France qui est en mutation. Il y a l'explosion du chemin de fer, par exemple, ça rapproche les villes, ça devient aussi un grand tout, la France. Donc c'est à la fois des confrontations régionales, mais aussi une manière de dire d'où on vient, Marion Fontaine. C'est-à-dire qu'être support au début des années 1900-1910, on se dit, attention, la région va peut-être se noyer dans la Grande France. Moi, je suis d'Orléans, je suis de Lille, je veux dire que je suis de Lille.
Oui, peut-être, et là vous posez une hypothèse très intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement on voit bien, et le phénomène se prolonge jusque dans l'entre-deux-guerres, le fait que le supporterisme est d'abord quelque chose d'une France du Nord-Ouest, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Normandie, donc aussi des zones plutôt industrielles, des zones qui sont peut-être parmi les zones les plus bouleversées justement par l'urbanisation, par l'industrialisation. Est-ce que ça peut être un élément expliquant que ce soit dans ces zones les plus bouleversées justement, où les enjeux identitaires, les enjeux de savoir d'où on vient et de savoir quelle est son identité sont les plus importants. Est-ce que ça peut expliquer, en plus de la densité de la population, de la plus grande facilité des circulations, le fait que le supporter soit d'abord quelque chose de septentrional ? Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que la géographie du supporterisme, c'est aussi une géographie de la France industrielle et urbaine, pour commencer.
Oui, mais enfin, on trouve malgré tout quelques poche sudiste, il est aussi un peu méridional, et du reste, et ça rejoint ce que dit Marion, il y a une poche languedocienne qui est assez étroitement liée à l'univers des mines, et donc en fait on retrouve le même modèle. Et puis il y a un autre espace qui est peut-être plus singulier, c'est celui de la Côte d'Azur, avec une revendication là autour d'une forme de communauté provençale et méditerranéenne qui est assez soulignée malgré tout.
Alors là justement, Philippe et Marion, est-ce qu'il n'y a pas une vieille querelle française du club des Jacobins contre le club des Girondins? J'entends par là Paris-Province. C'est vrai qu'on vous entend tous les deux, on se dit bah, en fait, on sent qu'il y a dès le départ une identification à sa racine et que contre Paris déjà un petit peu en réalité.
Moi je crois pas que ce soit foncièrement contre Paris, pour une bonne et simple raison, Et c'est ce que souligne Julien Sorès dans l'ouvrage, c'est que le supporterisme parisien, l'identification aux équipes parisiennes, est un phénomène qui est beaucoup plus tardif que celui qu'on peut observer dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Bretagne, etc. Et donc je pense que les clubs de supporters se définissent moins vis-à-vis du centre, même si la question de la périphérie et du centre est quelque chose qui traverse l'histoire du sport. Les revendications régionalistes sont effectivement souvent liées sur le plan institutionnel, par exemple à la mainmise que la capitale peut avoir sur la décision politique en matière de sport. J'ai pas l'impression que ce soit le cas en matière de supporterisme, j'ai plus l'impression que c'est un espace dans lequel on aime à afficher et défendre une identité régionale, ce qui se caractérise par tout un tas de petites pratiques avec amener un sanglier au stade et puis se voir interdire d'amener le sanglier au stade. Bon, je pense aux Ardennais. Bon, du coup, les types, qu'est-ce qu'ils font pour la finale? Ils tuent le sanglier, ils en font du pâté, ils ramènent le sanglier au stade en pendant une patte du sanglier à la cage du gardien. Donc on
du gardien adverse ou du gardien
de
l'équipe?
Du leur.
Porter la chance, quoi. Oui. Voilà.
On chante la pimpolaise quand il s'agit de soutenir. Donc, les Bretons, les Rennais. Donc il y a cette identité, et je pense que on peut imaginer que c'est une procédure de réaction à cette France qui est en train de se construire, de s'unifier par l'alphabétisation, par la conscience politique partagée malgré les grands débats qui agitent l'époque, etc. Et puis bon, c'est une ancienne de l'histoire du sport. Le régionalisme, on le retrouve finalement à peu près à tous les étages de l'histoire du sport.
Ça c'est vrai. Régionalisme, Mario Fontaine, certes, mais est-ce que dans cette France qui précède la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il y aurait une dimension patriotique au sport? Est-ce que tout d'un coup, on peut aussi soutenir la France comme une sorte de nation qui va rentrer en guerre, comme une guerre nationaliste, qu'est la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a déjà ça ou ça, c'est pas du tout la réalité?
Ça ne va vraiment commencer à se forger. Bon, d'abord, il faut que l'équipe de France de football commence à avoir une réalité, puis commence à pouvoir faire l'objet d'une passion spécifique, et il va surtout falloir la Première Guerre mondiale pour ça. C'est-à-dire que avant la Première Guerre mondiale, cette idée de relier le soutien à une équipe et la passion patriotique n'a pas véritablement de sens ou se joue ailleurs, à travers la gymnastique éventuellement. Pour aller aussi dans le sens de ce que disait Philippe, les oppositions entre supporters, j'ai l'impression, avant la Première Guerre mondiale et même après, les oppositions identitaires, elles se jouent entre voisins. Et ça corrobore d'ailleurs la dimension régionale, c'est-à-dire Lille contre Tourcoing,
le derby,
Sète contre Nîmes ou contre, c'est-à-dire que c'est d'abord des oppositions entre régions où chaque ville éprouve sa propre identité, et c'est très secondairement des oppositions à Paris aussi, parce que de toute façon les déplacements des équipes et sont encore
assez limités,
oui, assez compliqués,
reste régional et pas national.
C'est
pas Lille Montpellier, c'est plutôt Sète Montpellier.
C'est plutôt Sète Montpellier que Lille Montpellier.
Exactement.
Mais au-delà de la cristallisation et de la crispation autour des identités de clubs, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, il y a aussi très facilement des phénomènes de dissolution de l'identité. C'est-à-dire que quand Cannes perd dans la Coupe de France, les Canois deviennent supporters de Nice, qui est toujours un Coupe de France. Quand un des deux clubs de Roubaix est éliminé de la Coupe de France, c'est l'ensemble de Roubaix qui se vide à l'heure de soutenir l'un ou l'autre des clubs. Donc tout ça est une affaire de poupée russe, et pour parler de patriotisme, la défense des petites patries, elle préexistait quand même à la Première Guerre mondiale, pardonnez-moi. Et je pense que on l'a peut-être pas assez fait d'ailleurs dans ce bouquin-là, mais c'est peut-être une voie d'entrée de réfléchir le supporterisme comme une forme aménagée de patriotisme, une relecture à l'aune du sport.
Alors là, ce soir, on parle beaucoup de sport collectif, notamment de football. Or, à l'époque, faut quand même dire qu'avant la Première Guerre mondiale, c'est un sport qui est assez anodin, assez minoritaire. Un des sports rois, c'est le cyclisme, le vélo déjà. Tour de France, c'est 1903, si je dis pas de bêtises, la première édition. Est-ce qu'il y a des supporters du vélo, Philippe Tétard? Parce que là, on parle de supporters de football, on voit bien ce que c'est. Est-ce qu'il y a la figure du supporter cycliste au début du XXe siècle?
Alors, formellement, l'expression supporter de cyclisme est infiniment moins présente que celle de supporter de rugby, de football et même
voire de boxe.
Bon. Ceci étant, il y a des comportements sur le bord des routes à la Belle Époque qui tendent à montrer que les passions sont parfois déchaînées et que sous ce jour-là, à l'analyse, on peut décider qu'il s'agit d'une forme de supporterisme. Mais elle est très rarement qualifiée comme ça pour l'entre-deux-guerres. Donc c'est un champ dans lequel il y a clairement du supporterisme, mais qui semble fonctionner sur un autre mode et qui mériterait peut-être un deuxième volume.
Marion Fontaine, un mot sur ce oui, supporter plus individuel peut-être
aussi. Ce supporter plus individuel et qui de toute façon, je pense, a aussi du mal à émerger parce que ne se structure pas, ce qui va quand même aussi donner tout son sens au supporterisme de football énormément, c'est-à-dire peu à peu des clubs, des associations, ce qui est quand même assez fantastique, c'est que dès la belle époque, enfin c'est encore très balbutiant, ça se développera dans les années 20 et 30, se développe en quelque sorte une double sociabilité, à la fois la sociabilité liée au club, à la pratique du football, mais aussi une sociabilité spécifique liée au spectacle du football, donc avec le montage d'associations, avec donc la première date de 1912 à Lille.
Voilà, premier club français, premier on va dire, de supporters, français, c'est Lille 1912.
Ce qui va donner aussi toute sa réalité singulière aux supporters de football par rapport à d'autres sports qui déchaînent aussi les passions, c'est aussi le fait que tout ça se structure pour soutenir le club, pour soutenir les joueurs, pour organiser les déplacements.
Marion Fontaine, vous êtes spécialiste des mouvements ouvriers et de la culture ouvrière. Et en vous écoutant parler, je réfléchis à ça. Est-ce que déjà, on parle de Lille, du Nord, de l'industrie, est-ce que déjà c'est un point de partage de la culture ouvrière, le football ? J'entends, est-ce que le supporter du début du siècle, il a quand même une identité sociologique qui pourrait être le prolétarien, l'ouvrier de l'usine ou pas tant que ça ?
Comme le dit Philippe, c'est très compliqué de...
On manque de sources.
On manque de sources pour le savoir. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le football se popularise et se démocratise de manière très graduelle. J'en vois aux travaux de Julien Sorez, par exemple, entre une période qui va de 1900 à l'entre-deux-guerres. Donc, il est probable que les associations de supporters suivent aussi cette voie. Il y a probablement des ouvriers dès le départ, hein, dans les clubs de supporters. Mais l'ouvriérisation massive, qui sera celle des supporters du Racing Club de Lens, dans les années 40-50, il va encore falloir attendre un peu.
Il arrive plus tard.
Aussi parce que les clubs de supporters ont au départ une fonction aussi de soutien financier et logistique des joueurs, donc ce qui suppose quand même d'avoir un petit peu de moyens, pour soutenir les joueurs.
Allez, on va continuer à causer de ces proto-supporters français, mais pour l'instant c'est le retour de l'orchestre sur l'Inter, emmené cette fois par Gregory Porter, le titre joué Revival. Ainsi soit-il. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me higher, out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day.
Dans l'élite moderne, le sport a certes une place enviable. Ses turiféraires lui voûtent un véritable culte pour lequel il célèbre d'étranges fêtes. Ainsi pressés, agglutinés, mêlés au coude à coude, les adeptes du football lancent-ils chaque semaine des clameurs que porte loin le haut-parleur du vent. Au travers d'une liturgie faite d'enthousiasme et de passion, des milliers et des milliers de personnes se laissent ensorceler par les évolutions du ballon, hissant les joueurs professionnels au rang de dieux.
Philippe Collin sur France Inter.
Ce soir, nous sommes donc côté tribune, avec l'histoire des supporters en France de la belle époque aux années 30. C'est le titre de ce livre au récit inédit, orchestré par l'historien Philippe Tétard, où l'on découvre à la fois la précocité d'être un supporter en France, autrement dit dès le début du XXe siècle, et où on s'aperçoit aussi de la difficulté à nommer dans la presse de l'époque ce nouvel acteur social. Pour quelle raison ? Eh bien, l'ethnologue Christian Bromberger apporte un premier élément de réponse.
Je voudrais dire que cette théorie de l'opium du peuple et du football réduit à un moyen pour asservir des masses qui seraient en fait complètement aveugles sur leurs pratiques me semble démentie par les faits et soutenue par un point de vue qui est que les acteurs sociaux et en l'occurrence les supporters de clubs de football seraient des idiots culturels. Or je ne crois pas que les supporters soient plus que quiconque des idiots. Ce sont des gens qui, la ferveur n'entraîne pas forcément l'illusion. Ce qui veut dire qu'on peut être supporter et en même temps ne pas oublier ses soucis quotidiens, les grands problèmes de l'humanité actuelle et une crise sociale. Et ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est qu'on voit que cette ferveur, si on l'analyse de trop près, on a l'impression que les gens adhèrent complètement à l'objet. Mais très souvent, il y a une mise à distance par rapport au symbole même qu'exhibent les supporters. D'une part parce que ce discours sur leur propre pratique de supporter est souvent facétieux. C'est pas simplement une adhésion mystique, fervente, sans aucun écran intermédiaire. Il y a toujours une distance qui existe. Donc, je crois que là-dessus, il faut être relativement net en disant que les supporters ne sont pas des idiots culturels qui seraient complètement aveugles sur leurs pratiques. Au contraire, il y a très souvent une conscience de la pratique du supporterisme et une certaine mise à distance de cette pratique chez la plupart d'entre eux.
Philippe Létard, vous êtes donc historien, vous avez coordonné de ce livre consacré à l'histoire des supporters en France de la Belle Époque aux années 30. Pour faire écho à ce que vient de dire Bromberger, on sent bien que très vite dans votre récit, la presse, parce que c'est elle qui va faire naître aussi le supporter en tant que média, a du mal à définir, à évoquer cet acteur social qui est le supporter qui naît au début du XXe siècle. D'ailleurs, au départ, on parle de fanatique dans la presse. Est-ce que vous pensez déjà qu'on peut avoir dans cette presse de l'époque, un regard comme ce qu'évoque Bromberger, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des idiots culturels, on ne sait pas trop comment en parler, il y aurait un mépris social déjà de la presse de l'époque ou pas ?
Je crois vraiment pas. C'est pas le sentiment que j'ai après avoir brassé des milliers d'articles, de brèves aussi.
Oui.
Non. Au départ, on observe l'arrivée, l'entrée en scène de ce personnage-là, en espérant, parce que malgré tout, parfois, il s'énerve, il conspue, qu'il soit le plus débonnaire et finalement un passionné et bon père de famille à la fois. C'est ça qu'on attend de lui, mais on le critique pas. C'est plutôt dans les années 30 qu'un débat commence à s'instituer de manière beaucoup plus tranchée sur les vices et les vertus du supporterisme. Et ça, c'est parfaitement incarné dans un petit livre qui d'ailleurs vient d'être réédité, de Maurice Carême, qui s'appelle Le martyr d'un supporter, et qui dresse le portrait absolument catastrophique de l'influence du supporterisme sur l'existence d'un pauvre homme.
Marion Fontaine, je rappelle que vous êtes historienne, vous avez vous aussi participé à l'écriture de ce livre. Néanmoins, il faut quand même préciser qu'avant la Première Guerre mondiale, on attend plutôt du spectateur une sorte de neutralité amateur, plutôt qu'une sorte d'exaltation débridée. C'est un peu vulgaire. C'est-à-dire que la presse, elle se dit aussi, bon, effectivement, on attend qu'il soit aussi un bon père de famille et que les excès d'un supporter, bon, c'est un petit peu vulgus pecum, quoi. Hein. Donc,
Voilà, c'est toute la question. C'est aussi toute la question de la transformation de l'éthique même et de la morale qui accompagne le sport en général et le football en particulier. C'est-à-dire le passage d'une morale très aristocratique, respectueuse des valeurs de fair play, etc., que le meilleur gagne, à sports beaucoup plus populaires, mais qui suscitent aussi des engagements plus intenses. De ce fait, la question de savoir de ce qu'est le bon supporter, c'est ce que vient de dire Philippe, change. C'est-à-dire que le grand débat qui va surtout s'incarner dans l'entre-deux-guerres, c'est de savoir jusqu'où cette partisanerie sportive, ce fanatisme, comme on l'appelle à l'époque, est légitime, jusqu'où il est de bon ton d'être partisan et passionné de son club, et à quel moment ça sort des cadres de la raison, où ça débouche sur des débordements, alors qu'ils sont moins des affrontements entre supporters eux-mêmes que des attaques contre l'arbitre, que des projectiles jetés contre les joueurs, que des envahissements de stade.
Ça, c'est incroyable. On s'aperçoit à la lecture de votre livre à quel point l'arbitre est bouc émissaire, bien plus qu'aujourd'hui. Il est très dangereux dans les années 20 et dans les années 30 d'être un arbitre. Il est une forme de soupape des mécontentements du bord de terrain. Ça traduit quoi, selon vous, Philippe Tétard ? L'arbitre, c'est chaud, hein, la vie pour lui, quand même, dans les années 20.
Ah, peut-être pas pour tous les arbitres. Je vais pas grossir le trait, parce qu'on s'amuse pas à partir du moment où on a trouvé une anecdote à en faire un récit...
Oui, généraliste, qui, voilà, généralisé en tout cas.
C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'anecdotes un peu croustillantes, des arbitres coursés jusque dans la gare, protégés par une sorte de cordon sanitaire, des arbitres qui se planquent dans les vestiaires pendant des heures avant de pouvoir être exfiltrés, pardon, des stades. Je sais pas trop à quoi ça correspond, sans doute à une forme d'excitation très patriotique, on supporte pas de perdre. D'ailleurs, et à ce propos-là, cette excitation patriotique, elle est, mais dès les années 20, elle est célébrée aussi, parce qu'on estime que c'est une représentation de ce que le sport apporte comme vitalité à la France. Et sous ce jour-là, les excès sont parfois perçus de façon favorable. Et au bout d'un moment, ça pose problème.
Mais c'est vrai, Marion, parce que cette violence, elle est assez rapidement liée au supporterisme, mais on sent qu'à l'époque, elle n'est pas du tout encouragée, mais elle est beaucoup plus tolérée qu'aujourd'hui, finalement, dans la presse. On s'aperçoit que bon, bah, cette violence, elle appartient à ce monde des supporters et on la tolère mieux, sans doute, qu'aujourd'hui. Alors,
on la tolère mieux, elle est quand même régulièrement condamnée. La presse des différents clubs ne cesse de déplorer que, notamment, ses propres supporters s'attaquent à sa propre équipe, en plus des arbitres. Bon, il faut aussi rappeler que l'une des grandes différences par rapport à aujourd'hui, c'est qu'une fois de plus, les déplacements, notamment, je ne sais pas si on a Marseille contre un club parisien, les déplacements de supporters du club invité sont infiniment moins nombreux qu'aujourd'hui. Donc la violence, elle s'exprime beaucoup moins entre supporters, même si ça peut arriver, que contre sa propre équipe ou contre l'arbitre.
Par agacement.
Oui, par agacement. C'est alors après, est-ce que ça veut dire que le niveau de violence toléré est plus important dans l'entre-deux-guerres qu'aujourd'hui, ce qui est très possible? C'est-à-dire qu'il y a aussi, de la part des autorités du football aujourd'hui, une volonté d'aseptiser quelquefois totalement les stades, alors que je pense qu'on le fait que les stades puissent être des lieux de défoulement dans l'entre-deux-guerres jusqu'à un certain point, va avec l'acceptation, je pense, d'autres types de comportements violents, de bagarres,
qui sont liés
etc.
à l'époque et au contexte.
Qui sont liés à l'époque et au contexte.
De radicalité.
De forme de radicalité,
de brutalité, de bagarre de rue, effectivement.
Les rues de l'entre-deux-guerres ou des années 1900 ne sont pas non plus extrêmement pacifiques. Donc crois que la tolérance qui est accordée aux joueurs, aux supporters,
aussi.
Jusqu'à un certain point, elle est sociale.
Bien sûr, absolument. Philippe, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi un historien, on va dire, du média. C'est-à-dire que comment les médias se sont emparés du phénomène sportif au début du siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le supporter va naître aussi et beaucoup à travers la presse de l'époque. Et c'est intéressant parce que, évidemment, donc, les bords de terrain grouillent maintenant de personnalités qui viennent encourager les équipes. Du coup, la presse détourne son regard vers le bord du terrain et s'intéresse à ce groupe-là social. Et tout d'un coup, elle prend conscience de l'intérêt aussi des supporters parce que, dit supporter, dit passion, dit peut-être potentiel lecteur et peut-être aussi qu'il faut organiser des événements sportifs. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que la presse se dit « Ici, il y a un nouvel acteur social, j'ai intérêt à m'en occuper et à m'y intéresser. »
Oui, mais ils le font très très lentement. J'en veux pour preuve, et je pense que Marion l'a observé, et tous les auteurs de ce livre-là, c'est qu'il y a quand même, au final, très peu d'articles, de fond, d'éditoriaux, qui posent la question du sens, sens profond de cette nouvelle manière de se tenir, de se comporter en groupe, etc.
C'est très inédit. On ne sait pas trop comment appréhender le phénomène.
Mais en fait, votre question renvoie à une sorte d'impossibilité de réponse, c'est-à-dire qu'il nous reste à faire. Là, je me tourne vers mes collègues. Non, c'est pas tome 2. Il nous reste globalement à faire une histoire du spectacle sportif à cette période-là.
Absolument.
Elle n'existe pas. On a des morceaux là. Bon, et s'agissant de la violence et de la manière dont la société se débrouille de ces accès de violence, qu'on trouve aussi parfois dans les salles de boxe, qu'on trouve du côté des cyclistes, le Vildiv n'est pas toujours un endroit extrêmement pacifique, et d'autres vélodromes, et Dieu sait s'ils sont nombreux, puisqu'il y en a plus de 400 dans la France des années 1910-1920.
Oui, c'est le sport roi, on le
dit. Il nous reste peut-être à faire une histoire policière du sport, parce que par les petites lorgnettes qu'on a trouvées, il semblerait bien que malgré tout, il y avait des services d'ordre clairement installés, probablement donc des archives qui nous raconteraient la naissance et l'émergence du supporterisme et de cette industrie spectatorielle sous un nouveau binoculaire qui serait celui de la force publique. Et donc, ça renvoie à votre question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau personnage pluriel qui peut débarquer? Et puis, disons-le clairement, mettre le bordel, disons-le clairement.
pour aller dans le sens de Philippe, dans l'article qu'on a fait avec Ludovic Lestrelin dans le livre sur sur les supporters de Nîmes et de Marseille, notamment dans l'entre-deux-guerres. Il est clair que pour certains matchs, alors qu'ils sont plutôt des matchs internationaux, qui se jouent au Stade Vélodrome à Marseille et où l'Italie joue, donc on attend une très forte présence de la communauté italienne de Marseille, qui est évidemment très importante, mm-hmm. il y a manifestement convocation de la police municipale. Moins encore une fois pour régler de potentiels affrontements entre supporters que pour empêcher les envahissements de terrain. On sait, par exemple, pour un cas comme les supporters de Lens, que la police privée de la Compagnie des Mines de Lens sert aussi à assurer l'ordre dans les stades. Donc, effectivement, la manière dont on gère l'ordre dans les stades, mais la manière aussi...
Une histoire passionnante à raconter. Hein.
Tout à fait.
Ça peut être passionnant sur le XXe siècle.
Et la manière aussi dont ces supporters deviennent peu à peu visibles. Parce que la question, c'est effectivement... Quand les journalistes dénombrent ces supporters dans les stades, dans l'entre-deux-guerres, comment ils les voient? C'est-à-dire qu'on a aussi sans doute affaire à un supporterisme peut-être moins visible dans les stades, enfin qui porte quoi, des drapeaux. Donc il y a toute une question aussi de savoir comment, à quoi ressemble.
Comment
en fait.
Y repérer Parce qu'en fait, dans le corpus photo, c'est assez significatif, on voit pas grand-chose.
Voilà.
L'anecdote du sanglier, bon, ok, parfois un oriflamme. Mais
ça manque de détails.
C'est, ouais,
la panoplie n'est pas vraiment
définie. Il est noyé, le supporter. Il est encore très anodin, finalement. Même si il y a toute une économie du colifichet supporteriste, par exemple, à Rennes.
Marion Fontaine, on vient de dire le supporter, mais il y a la supportrice. Dès cette époque-là, dès la belle époque, dès les années 20, dès les années 30, la femme est dans le stade, elle supporte des équipes. Comment en parle la presse, Marion Fontaine, de cette femme supportrice?
Là, je vais m'appuyer sur l'excellent article dans ce collectif mon excellent collègue en face de moi, qui a fait effectivement un article que je trouve absolument remarquable.
Il est
sur la supportrice,
ouais,
la supporteuse, la supporteresse, on a du mal à mettre des noms. Oui, ça se voit dans des clubs comme Nîmes, etc. Ça se voit à Lens aussi. Il y a des femmes parmi le public et il arrive que la presse remarque cette supportrice. Alors évidemment, avec beaucoup de mal pour la qualifier, pour donner un sens à sa présence, si déjà la presse a du mal à donner un sens à la présence du supporter masculin, la présence de la supportrice est encore plus compliquée. Est-elle juste là pour la décoration, si j'ose dire, comme jeune femme jolie et charmante venant pavaner dans les stades? Est-elle la figure de la mère et de l'accompagnatrice? Il y a des figures à Sète, à Lille, etc. La mère courage,
la mère
de femme qui tiennent les bistrots, qui soigne.
La mère qui encourage, qui protège. La mère courage. Quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, ce qu'on voit en même temps, c'est que les supportrices, ce qui existe à cette époque, reste quand même éminemment lié à des présences masculines, c'est-à-dire que ce sont des filles d'eux, des femmes d'eux, des sœurs d'eux, et que leur présence dans les stades est connectée à la présence d'hommes. On est très loin encore des essais de supporterisme féminin tel qu'il va se dessiner nettement plus tard.
Philippe Tétard, par ailleurs, la presse dit aussi régulièrement qu'elle est fourbe parce qu'elle peut déconcentrer l'athlète par des jeux excessifs de séduction. Enfin, il y a aussi toute cette rhétorique qui est là. Quand
oui,
même,
hein. Bah, que ce soit vrai ou pas vrai, il y a un moment
existe,
où l'entraîneur de Rennes, se fondant sur une expérience anglaise, alors le nom du club m'échappe, décide d'interdire en gros que les couples se voient à la veille d'un match pour ne pas user d'énergie en activité.
De l'athlète.
Voilà.
Et ça existe déjà dès l'époque.
Ça existe clairement, c'est écrit clairement. Les ébats amoureux sont contre-productifs en matière sportive. On rigole pas, on est en division 1. Il s'agit de se mobiliser et d'être mobilisé pour le football avant tout. Donc ça, c'est une réalité. La figure de la tentatrice, c'est ce que je disais dans le papier, est quand même très présente. Et puis oui, effectivement, la mère courage qui mériterait d'être creusé, si je puis utiliser
mais ça
cette
aussi,
expression.
Mais ça aussi, entre guillemets, personnage de presse intéressant, comme portrait dans cette presse de l'époque, cette mère courage sur le bord du terrain, elle est passionnante.
Alors ce qui est assez surprenant, c'est que très souvent, ces figures de femmes protectrices, comme la Philo à Roubaix, qui tient un café, qui est le siège d'un des deux clubs roubaisiens, ces figures sont assez excessives. C'est-à-dire qu'elle ne vit que par le club auquel elle est attachée, à ce point que sa passion la déborde, elle n'a pas les moyens toujours de suivre l'équipe, mais lorsque l'équipe rentre, il lui arrive d'être si émue qu'elle empoigne le président du club et qu'au lieu de l'embrasser, elle le mord au sang. Donc c'est des personnages qui sont singuliers, vrais, pas vrais, fiction, est-ce que c'est du journalisme fictionné, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et moi, je ne doute pas qu'il y avait beaucoup plus de fans qu'on ne l'imagine, mais parfois tout à fait fantomatique. Par exemple, à Rennes, dès le départ, le club de supporters décide qu'il y aura 4 femmes dans le conseil d'administration de l'association. Sauf que dans le billet du supporter, un des rares documents sur lesquels on a pu travailler, eh ben on n'en parle jamais.
Marion Fontaine.
Pour aller dans le sens de Philippe, il n'est pas impossible d'ailleurs qu'à un moment les clubs eux-mêmes aient encouragé la présence des femmes dans les stades, avec l'idée que si la femme peut incarner dans les visions de l'époque l'excès d'émotivité porté à son paroxysme, la femme peut être aussi un agent calmant en quelque sorte dans les stades, incarner la stabilité, la famille, etc. Donc en fait civiliser, si j'ose dire, les stades par sa présence. Donc il y a un jeu effectivement assez ambigu, mais je pense qu'en effet, les femmes sont peut-être, et là encore ça fait un sujet d'enquête en lui-même, sont peut-être beaucoup plus présentes dans les stades qu'on a longtemps pensé. L'idée que l'irruption des femmes dans le foot daterait de 20 ou 30 ans, elle est tout à fait fausse, de la même manière qu'il y a un football féminin au début du football, qui est très largement écrasé au moment où le football se démocratise, avant de se redévelopper 80-90 ans plus tard.
Ben ça en fait des livres à écrire, hein. Vous en avez plein à écrire tous les deux. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Je rappelle et j'encourage nos auditeurs à lire cette histoire passionnante des supporters français de la belle époque aux années 30. Dans ce livre orchestré par Philippe Tétard et Marion Fontaine, Côté Tribune, c'est le titre et c'est disponible aux presses universitaires de Rennes avec une préface du magnifique Georges Vigarello. Merci à vous deux, à très bientôt.
Merci.
Ne quittez pas l'écoute car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors, que trouve-t-on ce soir pour commencer ce Give Me Five?
Oh, une fois n'est pas coutume. Oui. On commence avec un big up. Un big up à Justin Fashanu, vous savez, le premier joueur professionnel anglais à avoir revendiqué publiquement son homosexualité en 1990, après s'être ensuite malheureusement suicidé sous le poids de toutes les pressions. Eh bien, en hommage à son courage, pour célébrer ce qui aurait été son 59e anniversaire, Fashanu va intégrer l'English Football Hall of Fame, le musée célébrant les plus grandes gloires ayant porté les couleurs de la sélection anglaise. Alors, né en 1961, Justin Fashanu avait connu un début de carrière vraiment très prometteur, hein, avec Norwich, puis Nottingham Forest notamment, club dans lequel il avait été transféré pour une somme, mais alors inédite à l'époque pour un joueur de couleur. Mais malgré tout, évidemment, entre homophobie, racisme, Fashanu avait dû changer des dizaines de fois de club, et il n'a jamais eu la carrière qu'il méritait. Donc son entrée au Hall of Fame ne changera malheureusement pas ça, mais permettra au moins qu'on ne l'oublie pas.
Justin Fashanu, faut redire son nom. Quoi d'autre, Joy?
Alors, on vous en a déjà parlé plusieurs fois ici, et nous avons même reçu les Camille père et fils, parce que nous soutenons leur travail, alors continuons. Ces quelques mots donc pour vous dire qu'après 4 ans d'intense travail et d'efforts, leur documentaire sur le cycliste méconnu René Vietto vient d'être montré au Festival Sport, Littérature et Cinéma de l'Institut Lumière, et qu'il a reçu des applauses bien méritées. Alors c'est déjà chouette, certes. Mais faute de diffuseur pour l'instant, le film est surtout visible en festival, justement. Alors guettez-le, bien sûr. Mes chers diffuseurs et autres professionnels, encore un dernier coup de pédale, allez, s'il vous plaît. Et s'il fallait achever vraiment de vous convaincre qu'il faut que ce film soit visible du plus grand nombre, écoutez Jean Dury nous parler de René Vietto.
Ce qui est extraordinaire dans le début de l'histoire de Vietto, c'est que il avait été imaginé dans un scénario d'un film de 1925 qui s'appelle Le roi de la pédale. Son histoire, c'est celle d'un gamin qui est groom au Negresco de Nice et qui, à la suite de péripéties passionnantes, va devenir un coureur cycliste. Et l'histoire, c'est exactement renouvelé avec un petit groom du Majestic et du Palm Beach de Cannes, qui est devenu un grimpeur extraordinaire et qui est devenu René Vietto.
L'historien Jean Dury, dans le film de Julien Camille, Le roi mélancolique, c'est le nom, la légende méconnue de René Vietto, ce cycliste extraordinaire du début du XXe siècle. C'est très beau et on espère effectivement voir ce film diffusé à la télévision ou pourquoi pas sur grand écran. La suite, Joy.
Bon, alors tout est loin d'être rose dans le foot et même dans le sport en général, surtout ces temps-ci, ce qu'on déplore. Alors j'avais envie, voilà, d'applaudir les fans de deux clubs allemands de 3e division qui, la semaine dernière, se sont alliés pour la bonne cause, faire exclure Manu Militari du stade, un énième supporter raciste. Voilà. Alors le spectateur en tribune avait adressé des cris de singe aux joueurs des Kickers. Leroy Cuado, et dénoncé conjointement par les deux clubs, hein, pourtant rivaux, l'homme a été immédiatement sorti des gradins par les stadiers. Donc des publics de foot aussi solidaires et engagés, c'est assez rare pour être salué.
Alors on continue avec foot et bonne nouvelle toujours, c'est ça, direction l'OM je crois.
L'OM qui va bien cette saison, c'est pas à toi que je vais la prendre, et qui pourrait aller encore mieux grâce à leur nouvelle recrue, un nouveau speaker qui vient épauler André Fournel, le mythique, hein, dit Dédé. Dédé en place depuis 1986, parce que là, il faut mettre encore plus le feu au Vélodrome. Et cette personne, c'est qui? C'est une légende locale, le rappeur Sat l'Artificier du mythique groupe de la Funky Family.
Ah,
donc
oui,
un rappeur pour un second souffle, l'OM à jamais les premiers.
Et pour finir, Joy,
mon conseil culturel.
Eh oui.
Drive to Survive, la suite. Alors, je vous avais déjà parlé hein, de la saison 1 de cette géniale série. Et bien là, c'est tout nouveau, tout chaud. La saison 2 de cette série Netflix est sortie hier. Et c'est de nouveau une réussite. Et pourtant, vous commencez à me connaître. Hein, je suis loin d'être calée F1. Mais comme dans la saison précédente, les réalisateurs ont réussi avec brio à contenter fans passionnés et amateurs. Alors voilà, les spectateurs hein, occasionnels comme moi seront par exemple émerveillés devant la beauté et le suspense, hein, vraiment à la manière d'un film, de la course australienne par exemple entre Verstappen et Vettel, quand les aficionados, eux, les mordus là de la F1 en apprendront des masses sur les coulisses de leur sport favori, alors avec les négociations de contrats avec les écuries, les subtilités techniques des Grands Prix. Franchement, j'aurais pas parié me faire happer de nouveau par le tome 2 de cette série. Eh bien si, allez-y.
Alors ça s'appelle Drive to Survive, saison 2 donc, à retrouver dès maintenant sur Netflix. Merci beaucoup Joy.
Mais de rien,
à la semaine prochaine. Salut. Et voilà, cette 26e émission de la saison 5 a été coachée ce soir par H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique d'Alix Barois. Merci à elle. Merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. Merci à Arnaud Germain qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saunier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec les comptes, le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire des Jeux mondiaux féminins. Premières épreuves sportives internationales pour les femmes. La première édition eut lieu à Paris en 1922, orchestrée par Alice Millat. Contre Pierre de Coubertin, Alice Millat, figure sportive et politique méconnue du XXe siècle. Vous verrez, là aussi, c'est une histoire passionnante. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine sur Inter, bien sûr. Salut et fraternité.